laisse apparaître une étendue de vase noir, recouverte par endroits d'algues visqueuses. Nora s'assoit sur un muret et regarde au loin. Les deux hommes qui la suivent se sont arrêtés à une distance raisonnable et l'observent. Ils ont tout leur temps. Hier encore, Nora a appris l'emprisonnement de la femme d'un ami. Soupçonnée de sorcellerie et enfermée sans plus d'explication, son mari, désespéré, cherche vainement à comprendre et à la sortir de là. Il y a peu d'espoir qu'il y arrive. Pire, il faut espérer que lui-même ne fasse pas l'objet de poursuites. Qui sont ces gens qui accordent leur confiance à des dénonciations douteuses plutôt qu'à des preuves objectives et concrètes? Nora craint pour Lilias, et l'histoire lui donnera raison. Nora se lève et rentre chez elle. Elle sent toujours cette présence désagréable. Elle jette un rapide coup d'œil par-dessus son épaule et elle s'aperçoit. Ils sont encore là. Visage neutre et habillé de noir, ils n'essaient même pas de se dissimuler. Mais que veulent-ils, pense-t-elle? La peur s'empare d'elle. Instinctivement, elle accélère le pas. Sa maison n'est plus qu'à quelques mètres. Vite, elle s'empresse d'ouvrir la porte. Ses clés tremblent dans sa main, elle peste. Respire, se dit-elle. Respire, ils n'ont rien contre toi. Enfin, la porte s'ouvre. Nora se précipite à l'intérieur et ferme directement la porte à double tour. Elle reste quelques minutes adossée au mur et guette le moindre bruit. Elle entend les pas s'approcher et s'arrêter devant la fenêtre de la cuisine. Nora retient son souffle. De longues secondes s'écoulent, mais il ne se passe rien. Les pas s'éloignent. Elle attend encore quelques minutes avant d'ouvrir la porte. Elle jette un œil à droite, puis à gauche. Personne. La rue est vide. Nora se laisse tomber dans le fauteuil en face de la cheminée et fond en larmes. Lilias retourne dans la cuisine. Bon, elle doit s'activer car elle a prévu d'apporter pour la fille d'une amie une préparation à base de bruyère calune. Cette plante recouvre les landes écossaises et est considérée depuis toujours comme une plante magique. La fleur étant essentiellement violette, on dit que si une jeune fille trouve un brin de bruyère aux fleurs blanches, elle sera mariée dans l'année. Lilias sourit. Elle aime cette histoire, mais ne la raconte plus. C'est bien trop dangereux en ces temps où chaque parole peut vous conduire au bûcher. Mais cela n'empêche pas Lilias d'aimer cette fleur. Ses vertus antiseptiques sont incontestables. Elle espère, grâce à sa mixture, soulager la vilaine plaie sur la jambe de la petite fille. Pendant tout le temps que dure sa préparation, elle repense aux mots prononcés par cette vieille vipère de voisine. Non mais qu'ai-je donc fait pour qu'elle m'en veuille à ce point? Et c'est quoi cette histoire d'ombre dans ma chambre? Comment aurait-elle pu voir une ombre alors qu'il n'y a même pas de lumière? Elle croit quoi, la vieille vipère? Que je vais utiliser le peu de bougies qu'il me reste pour éclairer ma chambre? Lilias s'énerve. Elle sait qu'elle ne doit pas, mais c'est plus fort qu'elle. Elle sait qu'elle doit se faire discrète et se faire oublier, mais tout ça, c'est tellement ridicule. Dans son énervement, elle lâche le bol qui tombe et se brise en trois morceaux. Ah mince, peste-t-elle. La bonne pour tout recommencer. Ses mains tremblent. Chaque parcelle de son corps est habitée par la peur. Il faut que je me calme. On peut rien faire contre moi. J'ai rien fait. Tout mon entourage pourra témoigner en ma faveur. Je suis une personne respectable. Mais au fond, Lilias sait que personne ne pourra l'aider. Machinalement, elle va chercher un nouveau bol et recommence sa mixture. La soirée est déjà bien avancée lorsqu'elle a terminé. La petite fille habitant deux maisons plus loin, Lilias décide de lui apporter le cataplasme sans attendre. Elle sort de chez elle. À peine quelques minutes plus tard, elle est assise dans la cuisine de son amie avec, posé devant elle, un bol d'une délicieuse soupe chaude. La blessure de la petite fille est vilaine, mais elle le sait, la mixture fera des miracles. Les deux femmes discutent joyeusement pendant que la petite fille se repose dans son lit. Lilias passera la soirée là-bas. Personne ne remarquera la présence des deux hommes tous de noir vêtus, postés non loin de là et observant attentivement les moindres faits et gestes. Il est tard lorsque Lilias rentre chez elle. Fatiguée, elle monte directement se coucher, sans avoir allumé une quelconque lumière. Quelle idiote cette voisine, pense Lilias. Personne ne serait assez fou que pour croire à des bêtises pareilles. Malgré elle, un sourire se dessine sur son visage. Elle ose même espérer que cette histoire sera vite oubliée et que les choses reprendront leur cours normal. Hélas, le destin en décidera autrement. Il va tristement ressembler à celui de milliers d'autres femmes, à toutes celles accusées sans raison valable de sorcellerie et d'adoration du mal. Et rien ni personne n'est en mesure de stopper la machine qui est déjà en marche. Il a fallu un long mois de torture quotidienne pour que Lydia Sadi prononce les mots tant attendus. Le pasteur local, assis derrière le petit bureau, est satisfait. Il savait que la femme brisée devant lui était une sorcière. Il l'avait sentie dès qu'elle était entrée pour la première fois dans la pièce. Il ne cesse d'ailleurs de se vanter auprès de ses amis. « Moi ?» aime-t-il à répéter. Je les repère à des kilomètres et je suis fier de pouvoir affirmer qu'elles ne m'échappent jamais. Elles finissent toutes par avouer. Donc, que sa confession ait jailli sous la torture n'est pour lui qu'un détail insignifiant. Les sorcières ne ressentent pas la douleur, c'est bien connu. Pourquoi aurait-il pitié de cette femme qui s'est détournée du droit chemin ? Pourquoi aurait-il une once de tristesse en voyant la condamnée couverte du sang de ses blessures et brisée? Pourquoi aurait-il de la compassion en la voyant à peine tenir sur ses jambes disloquées par le poids des pierres? Enfin, elle a avoué. Elle a admis adorer le diable. Rempli du sentiment du devoir accompli, l'homme se lève et, avant de quitter la pièce, lui jette un dernier regard méprisant. Ces dernières paroles résonnent encore dans la tête de Lilias. Il te reste 2 jours avant que la sentence ne soit prononcée. Le lendemain matin, lorsque le gardien rentre dans sa cellule, il la retrouve inerte au milieu de la pièce. Persuadé qu'elle est juste endormie, il se rapproche prudemment et lui touche l'épaule couverte d'hématomes. S'attendant à un gémissement de douleur, il s'étonne de l'absence de son. Il la retourne et à la vue de son visage, il comprend que Lilias ne fait plus partie de ce monde. Loin de le rassurer, il sort précipitamment de la cellule en hurlant de terreur. « Elle est morte !» crie-t-il affolé. « Elle est morte !» Lorsqu'une sorcière est condamnée, c'est par le feu qu'elle doit périr. La mort sur le bûcher est le seul moyen de s'assurer que les sorcières ne reviennent pas des ténèbres pour se venger et jeter des sorts. Comprend mieux la terreur qui gagne les habitants de ce petit village côtier de l'est de l'Écosse. Lilias est morte avant sa condamnation. Lilias, la sorcière, n'a donc pas péri dans les flammes et risque de revenir se venger. Comment faire pour éviter cela? Sans perdre une seconde, le corps meurtri de Lilias Hadi est sorti de sa cellule. Une foule est rassemblée à l'entrée de la prison. Il n'aura pas fallu plus de 20 minutes pour que l'annonce du décès de la sorcière fasse le tour du village. 2 hommes déposent le corps dans une simple caisse en bois. Cette caisse est ensuite enterrée sur le rivage de Torryburn Beach. Les habitants sont persuadés que reposer à la limite entre la marée haute et la marée basse maintiendrait l'âme de Lilias dans les limbes. Et comme 2 précautions valent mieux qu'une, les 2 hommes, aidés par quelques villageois, placent sur la caisse en bois une grande et lourde dalle rectangulaire. Cette dernière empêchera ainsi le diable de la réanimer. Une fois la sorcière enterrée, La foule attend patiemment que la marée haute recouvre l'entièreté de la dalle avant de rentrer chez eux, rassurés. Nora a observé toute la scène. Elle sait qu'elle n'est pas à l'abri et qu'il vaudrait mieux pour elle qu'elle s'en aille. Mais pour aller où ? Les rumeurs se propagent à la vitesse de la lumière, surtout celles liées à la sorcellerie. Tant que cette folie ne cessera pas, elle ne sera à l'abri nulle part. Elle attend que les derniers curieux soient partis pour se diriger vers la tombe de son ami. Elle se retient de pleurer de peur qu'on la surprenne. On ne pleure pas une sorcière, lui a-t-on maintes fois répété. Du bout des lèvres, elle prononce une prière. Au bout de quelques minutes, elle tourne le dos à la sépulture cachée par les eaux et se dirige tranquillement vers chez elle en prenant garde de ne pas passer devant la maison de Lilias. Arrivée devant chez elle, elle ouvre la porte et rentre. La porte refermée dans son dos, la maison est dans le noir complet. Nora se laisse envahir par les ténèbres et s'autorise enfin à pleurer. Elle ne s'arrête pas avec sa mort. Elle deviendra le symbole de ce chapitre sombre de l'histoire qu'était la chasse aux sorcières. Sa tombe sera pillée par des collectionneurs d'antiquités en 1852. Ses restes seront éparpillés. Son crâne sera exposé dans plusieurs endroits avant de se retrouver dans l'université St. Andrews, située sur la côte est de l'Écosse. Il sera photographié par l'équipe de l'université. C'est à partir de ces photos qu'en 2018, à l'aide d'outils de sculpture virtuelle en 3D, son visage a pu être révélé. Il est le premier visage d'une femme écossaise accusée de sorcellerie. Grâce à lui, la chasse aux sorcières prend soudainement une dimension plus réelle. Le visage de Lilia Sadi porte en lui tous les visages des 4000 victimes innocentes. Sur la plaque commémorative de Lilia Sadi, on peut y lire ceci. Lilia Sadi, 1640-1704. Il craignait qu'elle ne ressuscite d'entre les morts. Comment aurait-elle pu le faire puisqu'elle était une femme ordinaire accusée ? Une femme ordinaire accusée. Une femme ordinaire comme tant d'autres, victimes de la terrible chasse aux sorcières qui a sévi en Écosse entre le XVIe et le XVIIIe siècle.